Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agathe Kakawe, Radio RPA, Idjouya Wanyagihougou, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
L'État burundais et l'Union européenne ont démarré mardi les échanges pour aboutir à la normalisation de leurs relations d'amitié et de coopération après les sanctions contre le Burundi survenues depuis mars 2016. Ces sanctions ont empêché le gouvernement du Burundi de recevoir une aide directe de quelque 430 millions d'euros pour la période de 2015 à 2020. Quels sont donc les intérêts derrière ce rapprochement entre le gouvernement burundais et son premier donateur? La réponse, c'est dans son mini-magazine Au cœur de la société de ce samedi 6 février 2021 à la présentation Bertrand Yannakourio. Bienvenue.
Mon général, le peuple te regarde.
Dans son allocution lors de la rencontre entre les deux parties, le ministre burundais des Affaires étrangères Albert Shingiro a indiqué qu'il faut se libérer du passé et accélérer ce processus de dialogue pour atteindre des résultats. Quant à Claude Botchou, ambassadeur de l'Union européenne au Burundi, il a indiqué que le dialogue doit être progressif. Quelle a été donc l'origine du divorce entre les deux parties, l'Union européenne et le Burundi? Le rappel avec Émile Anibasumba de la radio publique africaine.
Les sanctions qui ont été prises en mars 2016 avaient été précédées par les consultations entre l'Union européenne et le Burundi afin d'examiner la situation et les possibles solutions, comme l'exige l'article 96 de l'accord de Cotonou qui lie l'Union européenne au pays ACP. C'était en décembre 2015. L'Union européenne considérait que les éléments essentiels repris à l'article 9 de l'accord, notamment les droits de l'homme, les principes démocratiques et les l'état de droit n'était pas en train d'être respecté par la République du Burundi. Dans le pays s'observaient des assassinats, des tortures, des disparitions forcées, des arrestations arbitraires, des intimidations et des viols, des crimes qui visaient non seulement ceux qui s'opposaient au troisième mandat contesté du président de la République, mais aussi d'autres citoyens burundais. En plus de mettre de l'ordre dans le pays, l'Union européenne exigeait également au gouvernement du Burundi de participer activement au dialogue inter-burundais piloté à l'époque par la communauté est-africaine. Après ces consultations de décembre 2015 qui n'ont rien donné, l'Union européenne avait décidé que ses activités de coopération nouvelle avec le Burundi allaient être limitées aux actions à caractère humanitaire ou bénéficiant directement aux populations. C'était avant les sanctions qui sont ensuite tombées le 14 mars 2016. Ainsi, le gouvernement du Burundi venait de perdre environ 430 millions d'euros d'aide directe jusqu'en 2020. Mais l'Union européenne a continué d'accorder au pays l'aide dont bénéficie directement la population burundaise.
En termes de coopération, la motivation des différents acteurs est basée sur les intérêts. C'est ce qu'explique Méthode Nzigamasabo, expert en droit international. Il s'entretenait avec Thierry Guilindavi de la télévision Renaissance.
Commençons par la partie burundaise. Ça fait déjà à peu près 5 ans que l'aide européenne est coupée. Et donc la partie burundaise a tout intérêt à ce que ces sanctions soient levées. Je vais m'appesantir en particulier sur la question de l'aide financière. Malgré le discours officiel selon lequel la privation de cette aide n'a pas fait d'effet négatif sur l'économie du pays, je pense qu'il y a toute une série de raisons à ne pas croire à cela. Le Burundi a énormément besoin de cette aide financière. Pour la partie européenne, c'est vrai que le Burundi est un petit pays, mais dans les relations internationales, il n'y a pas d'autre pays à négliger. Même si le Burundi n'est pas très très riche, on parle de découvertes de minerais et d'autres biens de valeur, d'exploration de pétrole. Je pense que les Européens veulent garder un œil attentif sur cela. En outre, le Burundi est malgré tout une porte d'entrée vers certains pays voisins, le Rwanda, la République démocratique, ainsi de suite. C'est quand même un terrain que les Européens ne peuvent pas laisser comme ça, d'autant plus que en cette matière, quand on laisse un terrain, d'autres l'occupent et on dit que le terrain qui serait laissé par les Européens serait occupé par les Russes et les Chinois et je pense que cela ne ferait pas nécessairement plaisir aux Européens. On est au début des négociations. On n'a pas encore de résultats tangibles. Ça dépendra de l'allure que les deux parties prendront. Et ça dépendra aussi des accords sur les points importants d'achoppement. D'ici la fin de l'année, peut-être que ces sanctions seront levées. Peut-être non. Peut-être que l'une ou l'autre partie aura cédé sur une partie.
Mon général, le peuple te regarde.
À l'issue de la rencontre, le ministre burundais s'est montré enthousiaste, n'hésitant pas de dire que les résultats concrets sont pour bientôt. Mais cet enthousiasme a été vite refroidi par plus de 40 eurodéputés qui ont écrit une lettre au vice-président de la Commission européenne pour s'opposer à la reprise de ces relations. Car selon les élus européens, le gouvernement burundais doit d'abord cesser les tueries, les disparitions forcées, les arrestations arbitraires ou encore garantir la liberté d'expression et le retour des réfugiés, dont les défenseurs des droits de l'homme et les journalistes en toute sécurité et dignité, sans oublier la réhabilitation des médias détruits qui sont la Radio Publique Africaine, la Télévision Renaissance et la Radio Bonécha FM. Et voilà, c'est ici que prend fin son mini-magazine de ce samedi. Merci pour votre attention. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.